message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
La vie doit se manifester en toi. Comme quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, c'est une autre vie que tu as reçue. Alors la vie doit se manifester en toi. Parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Et si l'Esprit de Dieu vit en toi, c'est l'Esprit de vie qui vit en toi. C'est pour ça qu'un chrétien qui est né de nouveau, c'est un chrétien qui doit manifester la vie. Alléluia. La vie, et pas une petite vie. Je vous ai donné la vie et la vie en abondance. Ça doit jaillir comme des sources d'eau vive. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il va dire des sources d'eau vive jailliront de son sein. Et un peu plus loin, il va dire des fleuves. Parce que plus tu avances avec lui, et plus le ruisseau devient un fleuve. Alléluia. Seigneur, merci de nous donner la vie comme tu nous donnes la vie. Merci parce que, Seigneur, cette vie, nous la manifestons en proclamant ton nom, en louant et en adorant ton nom. La louange ne peut pas sortir d'un cœur qui n'appartient pas à Dieu. Le véritable adorateur, Marie, c'est quelqu'un qui est un, comme on dit en hébreu, un Yehoudim. Ça veut dire, il est juif dans son cœur. Parce que être juif dans son cœur, c'est être un adorateur du Dieu vivant. C'est pour ça que les chrétiens, je parle moi des enfants de Dieu, je ne parle pas de chrétiens, j'en ai marre des chrétiens, je parle des enfants de Dieu, des véritables enfants de Dieu, ceux et celles qui ont la vie de Dieu en eux. Alors ils vont la manifester, cette vie, oui ou non? Nous avons une vocation céleste. Nous avons une patrie qui nous attend en haut. Une patrie que Dieu nous a préparée. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, notre cité, elle n'est pas d'en bas. Il parle de la Jérusalem céleste. Nous sommes, dit l'Épître aux Éphésiens, étrangers et forains sur cette terre. Nous sommes que de passage. Alors je vais te dire une chose ce soir. C'est maintenant que tu prépares ton éternité. C'est pas une fois que tu seras mort. C'est maintenant qu'il faut que tu te donnes au Seigneur. Et c'est maintenant que tu prépares ton éternité avec Dieu. Et c'est pas une rigolade. C'est pas dire, j'ai le temps, je suis jeune, il faut que je profite. Et puis, quand je serai un peu plus vieux, alors j'irai vers Dieu. Mais tu sais pas que Dieu, il a ta vie entre ses mains. Peut-être il va te quitter ce soir de cette terre. Es-tu prêt à le rencontrer? Es-tu prête à le rencontrer? Sept points de notre vocation céleste. Première question, comment pouvons-nous être participants à cette grande vocation céleste? On a tous une vocation céleste, nous qui croyons en Christ. Notre vocation, elle n'est pas en bas. Sinon, je serais un brillant avocat, ou je serais un brillant chirurgien, ou je serais un brillant président de la République, ou je serais un... Mais non, notre vocation, elle est céleste. Elle est d'en haut. Peut-être que je serais PDG de Bouygues. Mais non, ma vocation, elle est céleste. Les honneurs des hommes sur la terre ne sont que passagers. J'en ai vu passer des hommes et des hommes et des hommes. J'en ai vu des présidents de la République. J'en ai vu. Et ils sont tous morts. On les a oubliés. Ou on s'en souvient. Ouais. Eh bien, celui-là, oui, il était bon. Hein. Il piquait les diamants à Bokassa. Et l'autre là-bas, eh bien l'autre, oh Chirac, il piquait les subventions dans les pays étrangers où il y avait une représentation française. Il subventionnait, il allait là-bas, il piquait le pognon pour lui. Chirac. Nous ne parlons pas de Mitterrand et les 40 voleurs. Il y a eu un bouquin, j'invente rien. Hein. Et Sarkozy, c'est le plus fort. Alors, Hollande, n'en parlons pas. On est embarqué dans une drôle de galère. Si tu crois dans les hommes, tu es foutu, tu es le plus malheureux des hommes. Et l'Écriture déclare, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Alors vas-y. Même ton PDG de chez Bouygues, même si tu as dit qu'il allait te donner une promotion, attends qu'il te la donne pour voir si c'est vrai. Comment pouvons-nous être participants à cette grande vocation céleste? Paul dit que celui qui se sanctifie et que ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte, c'est-à-dire le Christ, de les appeler ses frères. Ah, voilà, voilà, voilà. Dis donc, moi j'ai une vocation céleste, mais qui je vais trouver en haut? Ben mon Père céleste. Hein. Ton Père, hein, il n'a pas été chouette sur la terre, hein. Mais celui d'en haut est fidèle. Et puis, tu as un Père en haut, mais aussi tu as un frère. Qui est mon frère? C'est Jésus, mon frère. Et c'est comme ça que dans notre vocation céleste, un des points principaux, c'est que nous savons que nous avons d'abord un Père céleste et un frère céleste. Et ce frère céleste, il s'est venu s'identifier à l'humanité des hommes pour accomplir l'œuvre de Dieu afin que les pauvres boucs que nous sommes, les pécheurs que nous sommes, les tas de poubelles que nous sommes, Jésus vienne et prenne à la croix tous nos péchés et toutes nos iniquités, nous en débarrasse, nous asperge de son sang pour nous purifier. Tu comprends ça? Si tu ne participes pas à l'aspersion du sang de Jésus sur ta vie, tu es perdu. Si tu ne fais pas ta rencontre avec Jésus à Golgotha, tu es perdu. Paul dit que celui qui se sanctifie, c'est-à-dire moi, toi, ceux qui se mettent à part et ceux qui ont été mis à part par Dieu pour lui. Parce que nous avons une grande grâce, frères et sœurs, c'est que nous appartenons à Dieu. C'est lui qui nous a mis à part. En faisant quoi? Comment il va nous reconnaître? Il nous a scellés de son Saint-Esprit. Le sceau qu'il y a sur une lettre va attester du contenu de la lettre. Et quand on va ouvrir le sceau, on va voir ce qu'il y a dedans. Amen. Et le Seigneur nous a scellés de son sceau comme gage de notre rédemption. Alléluia. Nous avons tous un sceau de Dieu sur nos vies. Tu as été scellé du Saint-Esprit. Dieu, comment tu crois que les anges vont te reconnaître quand ils vont venir faire la moisson ici? D'après toi, comment tu crois qu'ils vont te reconnaître? Par le sceau de l'Esprit qui est sur toi. Dieu nous a scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire que quand les anges vont venir faire la moisson pour nous emmener avec eux dans les cieux, ils nous reconnaîtront par le sceau de l'Esprit. Je vais te dire une bonne chose, tu as été marqué du sceau de la croix. Tu sais pourquoi il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent? Il dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent en bas sur la terre que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mais pourquoi y a-t-il de la joie? Pourquoi quand un pécheur reconnaît, n'est-ce pas, et qui se repent et qui reconnaît que Jésus est vraiment son Seigneur, pourquoi il y a de la joie? Les anges en haut. Chaque fois qu'une âme se donne à Jésus, dans le ciel, les anges se prosternent devant le Seigneur à cause du sang qu'il a versé à la croix. Encore un racheté par ton sang, sauvé de la destruction éternelle. Parce que vous comprenez bien que l'histoire, hein, c'est pas que je veux rentrer simplement dans le ciel, parce que si je vais pas dans le ciel, eh ben, je vais à un autre endroit. Un autre endroit qui n'est pas plaisant pour les hommes. Parce que c'est un endroit de destruction éternelle. Une séparation totale de la vie de Dieu. Un espèce de néant total. Aucune référence à quoi que ce soit. Aucune référence à la création de Dieu. Ni au soleil, ni à la lune, ni aux autres. Le vide et le noir le plus complet. La désolation totale. Mais tu as une grâce infinie. Le monde, il a une grâce infinie. Il voit les perfections visibles de Dieu dans sa création. Tu te lèves le matin, il y a le soleil. Et l'Écriture nous dit ceci, que Dieu est juste, il fait lever le soleil sur les justes et sur les injustes. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il a le même amour pour tout le monde, mais il veut que chaque homme parvienne à la connaissance du Fils de Dieu et qu'il se repente. Ainsi, par le moyen de la repentance, nous pouvons avoir accès au royaume de Dieu. Repentir, c'est reconnaître ce que je suis. Nous avons tendance à nous fabriquer des apparences. Oh, il a l'air bien, ce pasteur. Hein, pas mal, hein, il prêche bien, etc., etc. Mais ne te fie pas à ça. Je ne suis qu'un homme. J'ai mes petits défauts aussi. Il faut que tu le saches. Ils ne sont pas gros. T'inquiète pas. Mais j'en ai. Ça montre que je suis en marche. Que je suis en route vers la perfection avec mon Seigneur, que je grandis chaque jour à la stature parfaite de Christ et que mon Seigneur m'aide. Je suis heureux qu'il m'ait changé, mais je sais aussi d'où je viens. Et je sais surtout qui je suis. Pose-toi les bonnes questions. D'ailleurs, le meilleur témoin, ça serait ma femme. Amen. Vous comprenez? Et ma fille? Et mes petits-enfants, et mes frères et mes sœurs de l'Église. Pardon? Donc Paul dit que ceux qui se sanctifient et ceux qui sont sanctifiés, que Dieu a mis à part, ils sont tous issus d'un seul. Ça veut dire que moi et tous ceux qui sont sanctifiés, nous sommes issus du seul juste qui soit le Christ. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères, puisqu'il nous a sanctifiés, puisqu'il nous a amenés à Golgotha, puisque nous avons reconnu ce que nous sommes, un tas d'immondices qui a besoin d'être sauvé par la grâce du Seigneur, et que nous avons accepté, pas que nous avons accepté avec notre raisonnement humain, mais que le Saint-Esprit est venu me convaincre que j'étais un sacré pécheur. Et que lui m'a conduit à Golgotha, et qu'il m'a conduit à la croix, et qu'à la croix, j'ai reconnu que j'étais un pauvre type, mais que là, j'avais une espérance, que Jésus pouvait me voir si je venais à lui comme son frère. Ça fait partie de ma vocation céleste. Jésus est mon frère. Dis avec moi, Jésus est mon frère. Si du moins, Jésus est ton frère. Il est mon frère. Et comment nous savons qu'il est notre frère? Tiens. Bonne question. Comment savons-nous que Jésus est notre frère? Alors, je vais vous donner un verset qui va nous éclairer. Vous êtes mes amis. Je vais vous donner Jean 15. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Si tu veux être frère du Seigneur, si tu veux entrer dans cette fraternité avec Christ, par ta nouvelle naissance, parce que Dieu t'a fait naître d'en haut, du Saint-Esprit, parce que tu es né aux valeurs du royaume de Dieu. Et tu vas vite t'en rendre compte, parce que toute ta mentalité va changer. Désormais, ta mentalité, elle n'est plus fixée vers les choses de la terre, elle est fixée vers les choses des cieux. Amen. Vers les valeurs éternelles. Hein? Et là-bas, en haut, au reste, mes frères, dit Paul, tout ce qui est pur, tout ce qui est noble, tout ce qui est digne de louange, il va dire, portez-les à votre actif. Ça, c'est les valeurs du royaume. Et tu sais très bien que si tu es né d'en haut et que tu vis dans ces valeurs-là, alors oui, Jésus est vraiment ton frère et ton ami. Je vais dénoncer ce soir. Écoutez-moi bien, j'ai la moutarde qui me monte au nez, je ne sais pas pourquoi, mais je vais dénoncer quelque chose ce soir. Je ne suis pas enfant de Dieu parce que mon père était chrétien, parce que ma mère était chrétienne. Je suis enfant de Dieu parce que je suis né de l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas me référer à mon père ou me référer à ma mère qui est chrétienne pour dire je suis chrétien. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. Mais non. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses d'en haut. Pas d'en bas, en bas, tu es déjeuné. Ta mère est amie au monde. Il faut que tu naisses de l'Esprit de Dieu. Je dénonce vraiment devant vous ceux qui prétendent être au Seigneur et qui ne vivent pas comme le Seigneur le demande, qui ne sont pas de véritables enfants de Dieu, qui sont partagés dans leur cœur. Si je les dénonce, c'est pour leur faire du bien, pas pour leur faire du mal. Je les dénonce pour qu'ils se rapprochent du Seigneur. Pour qu'ils ne se fassent pas d'illusions sur leur soi-disant foi. Parce qu'ils disent Jésus. Ben, tu peux dire Jésus autant que tu veux de foi dans ta vie. Tu peux dire Jésus du matin au soir. Et je te garantis que tu ne peux ne pas rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus. Vous m'appelez Seigneur et vous faites bien. Mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis de faire, dit le Seigneur. Ah oui. Tu peux avoir même un service dans l'église, tu peux... Mais attention, hein, tu crois que le Seigneur, il ne nous voit pas? Qui en trompe? Frères et sœurs, qui en peut tromper? Qui? Tu me trompes à moi, mais quand tu es dans ta maison, tu ne trompes pas le Seigneur. Quand tu sors d'ici, que tu vas dans le monde, tu ne trompes pas le Seigneur. J'ai constamment mes yeux sur vous, dit l'Éternel. Vous êtes comme la prunelle de mes yeux. Mes yeux sont fixés sur vous. Tu crois que tu peux faire ce que tu veux. C'est ton problème. L'écriture est claire. Jésus dit, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Mais attendez, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il nous a commandé le Seigneur? Est-ce qu'il a mis des choses trop hautes pour nous? Pas du tout. D'abord, il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est difficile. Eh ouais, dans l'église, c'est difficile. Pourquoi? Ah, j'aime plutôt celui-là que l'autre. On a ses petites préférences dans l'église. Oh, cette sœur-là. Oh, ce frère-là. Je ne rigole pas. Je suis très sérieux quand je dis ça. Je suis sérieux, frères et sœurs, parce que c'est une réalité vivante que je suis en train de vous enseigner ce soir. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si tu fais ce que Jésus te commande, tu es son ami. Et il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce qu'un serviteur, il ne sait pas ce que son maître va faire. Il est aux ordres du maître. Mais l'ami, lui, je vous appelle ami si je vous fais connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà la véritable amitié, la véritable filiation avec le Christ. Ce n'est pas que je dise Jésus, mais que je puisse avoir cette relation avec le Seigneur pour que qu'il me fasse connaître le Père. Lui, le Seigneur, il est le premier-né parmi de nombreux frères. Dis Jésus est mon frère. Si tu es né de l'esprit, dis Jésus est mon frère. Dis. Et je suis son frère. Avec le frère et avec ma sœur, on a des petites confidences. Ou pas, entre frères et sœurs. Est-ce qu'il est ton frère? Est-ce que tu te confies en lui? Ou tu te confies en tes capacités personnelles? Ou alors tu te confies en Jésus au moment où tu en as besoin? Je vais le sortir du tiroir parce que la situation est délicate. J'ai besoin de toi. Alors tu m'envoies un SMS et tu me dis, il faut ce que je veux faire, Seigneur. Il est le premier-né parmi de nombreux frères. Il est couronné de toute gloire et de tout honneur dans le ciel. Dans l'éternité, tout est sous ses pieds, puisque l'Église est son corps. Toutes choses dans l'éternité seront aussi sous nos pieds, à nous aussi. Vous avez compris une chose? Que Christ est la tête de l'Église. Dites Amen. Et que nous sommes le corps. Et le corps, il a où? Ses pieds, ben sur la terre. Mais la tête, elle est où? Ah, alléluia. Et qui commande le corps? Et voilà. Alors, est-ce que tu obéis à la tête avec ton corps? Tout le problème est là. C'est une question de soumission. Vous comprenez que la foi est une question de soumission. Ça veut dire... Je me soumets non pas par devoir à ce que Jésus me dit, mais je me soumets par amour pour lui à cause de l'œuvre qu'il a accomplie pour ma vie. Ou alors si tu ne te soumets pas au Seigneur pour ça, c'est que tu n'as rien compris à la foi. Rien. Et tu te trompes toi-même. L'Église est son corps. Toutes choses sont dans l'éternité, qui sont dans l'éternité seront aussi sous nos pieds. Et voilà ce que Romains 8, verset 17 va nous dire. Or, si nous sommes enfants de Dieu, quelle est notre vocation? Quelle est notre vocation? Écoutez bien. Si nous sommes enfants de Dieu, Romains 8, 17, nous sommes aussi héritiers. Ah. Et vous rappelez ce que disait Paul? Tout m'appartient. Alléluia. Tout est à moi et tout est à vous. Pourquoi? Parce que tout est à Christ. Quelle grâce que nous avons. Tout est à Christ. Et si, comme dit Paul, si nous sommes héritiers, si nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes aussi co-héritiers du Christ. Si toutefois, voilà la condition, si toutefois nous souffrons,
pas souffrir, Seigneur. Parce que vous croyez que la souffrance, c'est que Dieu, il est en train de vous mettre un couteau dans le corps pour vous faire souffrir? Non.
Vous savez pourquoi nous souffrons? À cause de notre désobéissance. Toute notre souffrance vient de notre désobéissance.
Paul dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ah là là, notre vocation, c'est d'être glorifié avec lui. Père, là où je suis, je veux qu'il soit aussi avec moi, pour qu'il voie la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Alléluia. Il veut nous faire participer à sa gloire. Dis, je suis glorieuse. Dis-le. Par la foi, Parce que c'est ça que le Seigneur veut pour nous.
Vous avez compris, hein, les petits chrétiens de pacotille, là. Hein, alléluia, alléluia. Alléluia quoi, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, et alors ? C'est tout ce que tu sais dire ?
Amen !
Oh oui, amen, dis-le. Dis-le, amen. Oh, si nous sommes enfants, enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers du grand Dieu. Ah, tout m'appartient, l'univers m'appartient. Je suis héritier de Dieu. Tout m'appartient.
Paul dira, tout est à moi et tout est à vous.
Tu te rends compte ? Tout m'appartient. L'univers. Et moi, je suis en train de patiner dans la choucroute en bas. Je ne suis même pas sûr de mon salut. Je suis comme les dents de scie. Une fois, je suis fort dans la foi, une autre fois, il faut me ramasser à la petite cuillère. Alors qu'il y a des certitudes dans l'Écriture. Alors que le Seigneur nous dit, mais tout est à vous. Vous êtes héritier de Dieu. Héritier de Dieu. Mais quoi héritier de Dieu ? Tout est à vous. Oh Seigneur, je ne savais pas ce que j'allais dire ce soir, mais je vais voir où tu m'emmènes maintenant. Et co-héritier de Christ. Si lui règne, je règne avec lui. Et pas quand je serai au ciel. Nous régnons maintenant avec lui. C'est pour ça que les chrétiens, la plus grande roublardise du diable, c'est de vous faire croire que vous ne régnez pas. La plus grande roublardise du diable, c'est de vous faire croire que encore vous n'êtes pas agréable à Dieu. Mais si Dieu t'a fait naître de nouveau, mon frère, ma sœur, tu règnes déjà avec lui par le moyen de la foi. Tu règnes avec lui. Maintenant, ici, maintenant, au moment où je te parle. Tu es héritier de Dieu. Tu es couché sur le testament de Dieu. Et comme Dieu est éternel et qu'il ne meurt pas, le testament, il est à toi. Parce que lui, il a paraphé avec le sang de son fils. Il convenait, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, on parle du Christ, il convenait en effet que celui, le Christ, pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Alléluia. Jésus est en train de nous conduire à la gloire. Vous le comprenez cela ? Il amène à la gloire une multitude de ses frères. Il veut que nous régnions avec lui. Ah, j'annonce une bonne nouvelle. Toi, tu bailles ce soir. Eh bien, moi, je vais te dire une chose. C'est que tu vas régner avec le Christ et qu'en haut, il y a du travail avec le Seigneur. Parce qu'il y a l'univers entier à gouverner avec Dieu. Tu as compris ? Ce n'est pas ton boulot là-bas, dans ton travail, que tu sors fatigué, soi-disant, parce que tu as travaillé 2 heures. Non, je te parle. Je te parle d'un royaume éternel dans lequel tu es héritier et dans lequel tu vas travailler avec le Seigneur. Alors tu comprends, j'en ai marre d'entendre, je suis comme ci, je suis comme ça, je peux pas, je ne veux pas, je ne sais pas. Mais la foi n'est pas faite d'incertitude. La foi, elle est faite de certitude. La foi est la ferme espérance des choses que l'on espère. Et la démonstration, frères et sœurs, franchement, Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a bien laissé l'Esprit Saint. Si du moins l'Esprit de Dieu repose en nous. Hein. Voilà, ça c'est le problème. Ça c'est le vrai problème. C'est le vrai problème. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire ceci. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses,
c'est-à-dire le Christ, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, que celui-ci fût élevé à la perfection par les souffrances, Christ a été amené à la perfection par l'œuvre de la croix. Fils, en tant que fils de l'homme, en tant qu'humain, en tant qu'incarné sur la terre, il a été amené à la perfection par les souffrances qu'il a souffertes à la croix. Il a pris toutes tes souffrances. Et quand tu te plains d'un petit bobo, excuse-moi de te dire que Christ a pris bien plus que ton petit bobo. Il a pris toutes nos maladies. Dites amen. Ou non, vous comprenez ça? Et dites ce soir, par ses meurtrissures, je suis guéri. Dis-le. C'est pas juste ce verset. Il est mal traduit. Il est dit dans le texte en hébreu, par sa meurtrissure, il a été guéri pour nous, Jésus. Pourquoi Jésus a eu besoin de guérison? Parce qu'il a été chargé de nos péchés. Et il a fallu que le Père le guérisse. Et maintenant, parce que Christ a été guéri, il peut parfaitement nous guérir. T'as compris ça? Alors, il y a une puissance en Christ. Tu ne doutes pas. Tu ne doutes pas de ta guérison parce qu'il peut faire le miracle. Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Jésus veut dire la parole. Une parole. Il envoya sa parole et les guérit tous. Dans le psaume, il les guérit tous. Il passait, partout où il passait, il faisait du bien, guérissant les malades, chassant les démons, ressuscitant les morts. Et tu ne veux pas avoir la foi? Mais moi je bondis. Moi, je ne tiens pas là. Tellement que je sais comment est mon Seigneur. Mais il peut te donner au-delà de ce que tu penses et au-delà de ce que tu espères même. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, qu'il éleva, le Père éleva son fils à la perfection par les souffrances de la croix. Savez-vous que Christ à la croix a été fait malédiction pour nous, afin que nous devenions bénédiction pour Dieu? Lui le Saint, l'innocent, sans péché, partout où il passait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toute sa vie était une vie d'exemplarité dans la relation, dans l'amour qu'il avait pour les âmes, dans sa compassion qui sortait de son cœur. Il est Dieu. Il déversait son amour sur les âmes. Il les guérissait, il les délivrait, il chassait les démons, il ressuscitait les morts, il guérissait les lépreux. Il parlait, la chose se tenait devant lui. Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Messie d'Israël. Celui que mon cœur aime. Par-dessus toute chose. Je vous le dis, par-dessus ma femme, par-dessus mes enfants, par-dessus ma famille, par-dessus tout, c'est mon Christ que j'aime en priorité. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Oui, parce que le premier commandement, peut-être tu sembles oublié, Église. Je vais te rafraîchir la mémoire, n'est-ce pas? Tu connais le premier commandement, monsieur Coudert, Samuel? Quel est le premier commandement?
Tu aimeras ton Dieu, de tout ton cœur.
Oui, de tout ton cœur.
De toute ta force.
De toute ta force.
De
toute ton âme. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et quoi encore?
De toute ta pensée.
De toute ta pensée. Pour arriver à ce point, Il faut que tu aies fait abnégation de ta vie. Il faut que tu aies réalisé quelle est la place que Christ occupe dans ta vie. Est-ce que tu aimes Christ plus que ta femme? Philippe, est-ce que tu aimes Christ plus que Virginie? C'est parce que Jésus a dit, Pierre, m'aimes-tu? Est-ce qu'il n'a pas posé cette question à Pierre? Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre dit, mais tu sais que je t'aime, Seigneur. Mais il lui disait, est-ce que tu m'aimes de l'amour divin? Et Pierre lui répondait, je t'aime d'un amour fraternel, comme un frère. Et ce n'est pas ce que Jésus lui demandait. Trois fois, il va lui redire la même chose, jusqu'à ce que l'autre comprenne de quel amour il devait aimer le Christ. C'est pour ça que ces hommes-là, ils n'ont pas hésité un seul instant. Quand ça a été l'heure de leur persécution et de leur souffrance, Pierre, il s'est fait crucifier la tête en bas. Paul, il a eu la tête tranchée, mais ils n'ont jamais renié leur Seigneur. Ils savaient, c'était le sang des martyrs. Nous sommes, nous, au bénéfice de ce sang-là. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes mis au bénéfice du sang de Paul, du sang de Jacques, du sang de Pierre, du sang de tous les apôtres. Ils ont été crucifiés, les uns sciés, les autres crucifiés, les autres. Mais ils n'ont jamais bougé dans la foi. Ils ont dit, celui-ci est le Christ, le Fils du Dieu vivant. J'arrive au premier point, c'est que l'introduction, mais il faut qu'on avance. Notre vocation céleste va nous faire entrer dans un premier point, c'est que nous devons être participants de la nature divine. C'est l'apôtre Jean qui va dire dans son évangile, il va dire, nous ne sommes pas nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous a donné l'Esprit de vie. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas vivant devant Dieu. Tu es encore mort. Oui, tu n'es pas mort, enterré. Tu vis, tu travailles, tu boulonnes, mais spirituellement, tu es coupé de Dieu. Tu n'as aucune relation avec lui. Il faut que tu naisses de l'Esprit de Dieu. Il faut que tu naisses tout à nouveau. Il faut que tu naisses d'en haut. Parce que d'en bas, tu es déjà né. Tu te regardes à la glace tous les jours. Mais ce qui est né de la chair est chair. Moi, je suis né de mon père physique. Je suis né de la chair. Mais ce qui est né de l'Esprit est esprit. Et Jésus dit, il faut que vous naissiez d'en haut. Participant de sa nature divine. Voici ce que Pierre va nous dire dans la deuxième de Pierre, au chapitre 1. Il va dire ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Pourquoi faire? Pourquoi Dieu veut nous faire participer de sa nature divine? Il y a bien une raison. Il y a bien une raison pour laquelle Dieu veut nous faire participer à sa nature divine. Pourquoi faire? Eh bien voilà, la raison est là, elle est sous nos yeux. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par les convoitises. Si Dieu nous adresse une vocation céleste, c'est pour nous faire échapper, pour nous faire échapper à la corruption de ce monde. Je vous dis, frères et sœurs, ce monde est déjà jugé. La première fois, Dieu l'a jugé par le moyen de l'eau, avec le déluge du temps de Noé. Et maintenant, il va juger cette terre avec le feu. L'eau et le feu, ce sont les deux seuls éléments qu'on peut s'attendre du ciel. Quand il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, le mot « hachamaïm » en hébreu, le mot « cieux » est composé de deux mots, de « mim » qui est l'eau et de « esh » qui est le feu. Le ciel que nous avons là et les cieux que nous voyons ont été faits par le moyen de l'eau et du feu. Dieu l'a fait ainsi. Et qu'est-ce que nous attendons d'en haut ? L'eau ou le feu ? L'eau ou le feu ? L'eau, il y a eu déjà avec Noé, le déluge. Maintenant, nous attendons le feu. Ce monde, il gît sous la corruption. Ça pue le péché à tous les coins de rue. Ça pue le péché dans toutes les maisons. Ça pue le péché partout. C'est un monde de convoitise. Un monde de corruption, c'est un monde de débauche, c'est un monde qui vit dans le péché. Pourtant, Dieu a pallié à cela. En quoi faisant ? Il a envoyé son Fils unique pour cela. Il a envoyé son Fils unique afin que ce monde puisse être sous le couvert de la grâce et de la miséricorde de Dieu en se tournant vers le Christ. Quelle bonne nouvelle nous avons. Je vous annonce que le christianisme n'est pas une religion. Il y a beaucoup de religions dans le monde. Il y a du bouddhisme, il y a tout ce que vous voulez. Mais le christianisme n'est pas une religion. On en a fait une religion, mais ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est Dieu s'est révélé dans son Fils unique. C'est une révélation. On en a fait, nous, une religion. Parce que comme on ne cherche pas Dieu, alors on a fait des artifices religieux. On fait une louange, on tape des mains. Allez, allez, olé, 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 olé. Le monde évangélique, ça y va. On tape des mains, on saute au plafond, on agite les drapeaux, on fait tout ce qu'on veut. Mais l'essentiel n'est pas dans les cœurs. Pierre nous dit, et c'est très clair ce qu'il nous dit, il nous dit ceci, que les plus précieuses promesses et la parole des plus grandes, c'est afin que par ces précieuses promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Qu'est-ce que ça veut dire participants de la nature divine ? Mon frère, ma sœur, si tu es né de nouveau, tu es né de Dieu. Tu n'es pas né de la chair ni du sang de l'homme. Tu n'es pas né de l'homme, tu es né de l'Esprit de Dieu. Car tout ce qui est né de l'Esprit est Esprit et tout ce qui est né de la chair est chair. Et Jésus a crié à Nicodème dans la nuit, à l'homme religieux, un haut ponte, n'est-ce pas, du Sanhédrin, qui est venu le consulter pendant la nuit parce qu'il avait peur que ses pères le voient venir consulter ce Jésus de Nazareth. Il est venu pendant la nuit incognito et Jésus lui a dit, « Oh, Nicodème, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Il lui a dit, « Il faut que vous naissiez. » Il dit, « Et toi qui es un docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses. » Et Nicodème va lui dire, mais Seigneur, comment puis-je rentrer à nouveau dans le sein de ma mère pour naître à nouveau ? Jésus dit, mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Je ne te dis pas que tu rentres dans le sein de ta mère, parce que ce qui est né de la chair est chair. Je te dis qu'il faut que tu naisses de l'esprit de mon Père qui est en haut. Oh, le Saint-Esprit, la promesse que Dieu nous a donnée. Alléluia. Tu ne sais pas la grâce qui est sur ta vie, mon frère, ma soeur. Tu es là, assis sur ta chaise, mais tu ne sais pas la grâce que tu as dans ta vie. Que Dieu t'ait scellé de son Saint-Esprit. Il t'a gardé pour le jour de la rédemption. Personne ne pourra te ravir de sa main. Ni la mort, ni la vie. Et même si tu meurs, écoute-moi bien, tu seras toujours avec Christ en haut. Il y en a qui pensent, eux, être agréables à Dieu en faisant des œuvres. Ils se trompent. C'est parce que c'est eux qui font. La grâce, c'est que tu ne fais rien. Et c'est Jésus qui fait tout pour toi. Tu ne peux rien rajouter à ton salut. Tu ne vois pas comment tu es? Tu vois comment nous sommes? Même appartenant au Seigneur, on voit bien nos défauts. Hein, si je te dis un petit mot de travers, tu vas voir comment tu vas me regarder. Et c'est là où on constate le degré de la conversion. Oh, tu peux dire, je suis né de nouveau. Quand je me suis converti, bon, parce que c'est toi qui t'es converti, comment un mort, il peut se convertir? T'as vu un mort se convertir, toi? Parce que l'Écriture nous dit que nous sommes morts, quoique vivants. Comment un mort, il peut se convertir s'il ne reçoit pas l'Esprit de Dieu pour venir à la vie? Quand je me suis converti, alors c'était en l'année 1994. C'est rigolo, hein, parce que vous entendez ça dans le monde évangélique, c'est rigolo, ils prennent le violon pour te dire ça en plus. Ouais. Je me souviens quand je me suis converti. Alors moi, je vais te dire, si vraiment le Seigneur est venu dans ta vie, eh ben, tu as vécu quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial que tu as vécu. C'est un moment dans ta vie que tu vas te souvenir toujours. Même si tu oublies l'heure et la date, mais tu te souviens que Dieu est rentré dans ta vie parce que tu as vécu l'expérience avec lui. Et ce n'est pas des bouts de papier, et ce n'est pas des crayonnages qui vont te faire naître de nouveau. Il faut que tu reçoives le toucher de Dieu. Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne le tire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Tu sais ce qu'il te faut? C'est que le Père t'attire à Jésus. La dramatique dans nos pays de France et dans les pays européens, c'est qu'on est chrétien de père en fils ou de mère en fille. Mais attends, je rêve. Ça ne fait pas de toi un chrétien, ça. Il faut que tu naisses de nouveau. Et tu me dis, mais moi je suis baptiste, moi je suis pentecôtiste, moi je suis adventiste, et moi je suis triste, et moi je suis ci, et moi je suis ça, et je suis l'autre. Et le Seigneur dit, il faut que tu naisses d'en haut. Je vais te dire, quand tu nais d'en haut, et pardonne-moi, je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon enseignement ce soir, j'ai envie de vous dire des choses. Quand tu nais d'en haut, tu as toute la vision de ta vie qui change. Et pour que ça change, il faut que les autres ils s'en aperçoivent. Et le Seigneur est bon. Tu appartiens à Jésus depuis 20 ans. Et tu es dans cet état-là. En 20 ans, tu n'as pas grandi. Tu es comme ça encore. Moi, je ne te juge pas, mais tu me dis que ça. Tu as 20 ans que tu es avec le Seigneur et tu es là encore à avoir plein de doutes dans ton cœur. Tu ne sais même pas où tu habites, tu ne sais même pas ce que tu fais, tu ne sais même pas si tu es né de nouveau et tu dis que je suis avec le Seigneur. Mais tu rigoles. Les certitudes du royaume, elles sont scellées dans ton cœur. Tu me mets le couteau sous la gorge que je ne renierai pas, mon Seigneur. Je sais en qui j'ai cru. Et même si mes yeux se ferment ici, en bas, dès que je les ferme, je sais que je suis en haut. Et le voyage est gratuit. Premier point, donc c'est le suivant, celui qu'on vient de voir. Participant de sa nature divine. Lorsque nous venons à Christ pour la première fois, nous venons avec une nature pleine de péché. L'Écriture nous dit, et tous ici présents, nous avons été comme cela. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça pue le péché chez l'homme. T'as beau te draper avec des apparences, mais dès que tu commences à gratter un peu derrière, est-ce que vous savez que le péché, ça pue, ça sent? Et David dit, je suis né dans le péché. Oui, ma mère est pécheresse. Mon père, c'était un pécheur. Ma grand-mère, c'était une pécheresse. Mon grand-père, c'était un pécheur. Mais grâce à Dieu qu'aujourd'hui, dans ma famille, eh bien Francis, lui, il est né de Dieu. Moi, le péché, il n'y a plus. Parce qu'il n'a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ouais, vous savez, je suis en train d'épuiser le magnétophone là-bas, où l'enregistreur, toujours on me dit, faut raccourcir. Mais moi, quand je suis lancé, tu ne me raccourcis pas. Voici, je suis né dans l'iniquité. Tiens, qu'est-ce que c'est que l'iniquité, vous, les chrétiens? Tiens, qu'est-ce que la différence entre le péché et l'iniquité? Bonne question, tiens. Personne n'est capable de répondre ici. Quelle différence y a-t-il entre le péché et l'iniquité? Voyons, on lit. Parole. Dalida, parole. Qu'est-ce que c'est que la différence? Alors le péché, c'est une circonstance particulière dans laquelle tu faillis. Mais ce n'est pas ton habitude de tomber dans ce péché. Mais par contre, il y a d'autres péchés que... Et tu y vas, hein? C'est toujours le même qui te tient. Et ça devient une iniquité. Et l'iniquité laisse une trace dans ta vie. Est-ce que tu sais, je vais te donner un exemple, est-ce que tu sais que les limaces, quand il y a un cortège de limaces qui passe, elles vont passer dans un endroit et elles vont passer les unes derrière les autres et elles vont laisser une trace blanche par terre que même avec la pierre ponce, tu peux pas la quitter. Ça, c'est l'iniquité. Ça laisse une trace en nous. Et alors, qu'est-ce que Jésus fait, frères et sœurs? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour quoi faire? Et pour nous purifier de toute notre iniquité. Il y a le pardon des péchés, mais la purification, tu sais, de ces péchés que tu pratiques dans l'ombre. Tu sais ce que je veux dire? Toujours le même péché. Alors, excusez-moi, on est des adultes. Bon, vous ne m'en voudrez pas. Il y a des gens qui ont de mauvaises habitudes. Ils se masturbent. C'est un problème chez eux. Il y en a d'autres. Ils mentent du matin au soir. Ah, on sait qui est le père du mensonge. Je ne vous l'apprendrai pas. Ce n'est pas Jésus en tout cas. Lui, il nous a dit la vérité. Et il y a des péchés dans lesquels l'homme est tombé et qui nécessitent de la part du Seigneur une effusion de sang sur la vie de cette personne pour qu'il soit purifié et pardonné, non seulement des péchés, mais de leur iniquité. Nous devons rendre gloire au Seigneur qui n'a pas regardé un seul instant ce que nous étions, mais qui a dit au Père, voici, ô Dieu, je viens pour faire toute ta volonté. Tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps et j'ai dit, me voici, envoie-moi. Pourquoi faire? Pour aller à Golgotha et prendre toute la pourriture des péchés du monde entier, se charger de tout ça à la croix. Frères et sœurs, est-ce que vous imaginez un seul instant le Christ qui était lui pur et sans tache, le Fils de Dieu qui s'est incarné dans son humanité, qui a pris ce qui était contraire à sa nature, qui a pris tes mensonges, tes trucs tordus, qui a pris tout ce que l'homme peut fabriquer dans sa nature pécheresse, qui a pris ça à Golgotha et qui a crié au Père. Qu'est-ce qu'il a crié au Père? Père, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le châtiment qui devait tomber sur nous, il est tombé sur lui. Et c'est le gage de notre salut. Alléluia. C'est ce que Christ a fait pour nous. La première chose qu'il a fait, c'est le premier point que vous nous développez ce soir, c'est le suivant. Je vous le rappelle. C'est que il nous a rendus participants de sa nature divine. Paul va dire, dans l'épître aux Corinthiens, il va dire ceci. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Et si tu as été revêtu de la nature divine, alors tu ne pèches plus. Car celui qui appartient à Christ, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Amen. Donc ça c'est le premier volet de 7 points que nous allons voir dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent. Les 7 points, n'est-ce pas, de notre vocation céleste, celle à laquelle Dieu nous a appelés et pour lesquelles Dieu a tout fait pour nous, pour que nous rentrions dans le royaume éternel du Père. Alléluia. Et il a payé cela au prix de sa vie à la croix. Père, de tout ce que tu m'as donné, aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de la perdition. Père, là où je suis, je veux qu'eux aussi y soient avec moi pour qu'ils voient la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Nous sommes des enfants de Dieu glorieux. Alléluia. C'est pour ça qu'étant fort de ses convictions de foi, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi dans nos vies. Que Dieu vous bénisse.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net